Un temps très orageux du Languedoc à la région lyonnaise et à l'Alsace. Ce sera en revanche plus lumineux en Corse et dans les Alpes-Maritimes. Le nord et l'ouest vont retrouver un ciel changeant avec des nuages et des averses, mais aussi des périodes ensoleillées. Les températures, on attend 13 degrés à Dijon, 15 à Quimper, 16 à Paris, 18 à Albi, 19 à Marseille, 20 degrés à Toulon. RTL, il est midi. Tout de suite, c'est le grand jury RTL, le Figaro M6 Paris Première, présenté par Olivier Bost.
Le grand jury, présenté par Olivier Bost.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et sur Paris Première. Bonjour Mathilde Panot.
Bonjour.
Vous êtes la présidente des députés de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale et députée du Val-de-Marne. Vous êtes convoquée, Mathilde Panot, mardi prochain par la police pour vos propos sur le Hamas et les attaques du 7 octobre. Là, l'avant-veille de ce rendez-vous, assumez-vous encore vos propos? La cause palestinienne est devenue l'axe principal de votre campagne pour les élections européennes. Alors que cherchez-vous à provoquer le bazar dans les universités, à faire parler de vous, ou cherchez-vous à mobiliser un électorat sensible à ces causes? Vous nous expliquerez. Bienvenue dans ce grand jury, Mathilde Panot. Pour vous interroger ce dimanche, à mes côtés, Loris Boischaud du Figaro et
bonjour.
Pauline Buisson de
bonjour.
M6.
Bonjour.
Vous serez donc entendu, je le disais, mardi par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Une première question, Loris Boischaud.
Oui, Mathilde Panot, si vous êtes convoqué, c'est parce que vous avez qualifié dans un communiqué au lendemain du 7 octobre les attaques du Hamas en Israël d'offensive armée de forces palestiniennes. C'est à ce titre donc que vous êtes convoqué. Je précise que c'est une audition libre et qu'à ce stade, vous n'êtes pas poursuivi pour aucun délit. Est-ce que vous maintiendrez vos propos devant la police mardi?
Alors, je suis heureuse que vous me fassiez cette présentation et que vous m'expliquiez pourquoi je suis convoquée pour apologie du terrorisme. Cette convocation, elle fait suite à une tentative de censure de la part de ce pouvoir, puisqu'il y a eu l'annulation de conférences par 6 fois pour Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan en pleine campagne électorale, donc une atteinte à la liberté de réunion et d'expression. Il y a eu la condamnation pour 1 an de prison avec sursis d'un secrétaire départemental de la CGT du Nord pour un tract sur la Palestine et diverses personnalités, notamment Rima Hassan, dont nous sommes fiers qu'elle soit candidate pour la liste de l'Union Populaire menée par Manon Aubry, pour apologie du terrorisme. Je vais vous dire, la censure est incompatible avec la démocratie et je veux que vous vous rendiez compte de ce qui est en train de se passer. Je ne vous demande pas de réaliser et de défendre Mathilde Panot, moi citoyenne. Je suis convoquée comme présidente de groupe parlementaire pour un communiqué de presse de mon groupe parlementaire. Est-ce à dire que maintenant on va aller convoquer pour apologie du terrorisme les 75 députés de mon groupe? Est-ce à dire qu'on va convoquer pour apologie du terrorisme les millions d'électeurs et d'électrices qui votent pour nous? C'est absolument un non-sens.
Donc vous parlez d'une atteinte à la liberté d'expression?
Mais bien sûr, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Ce qu'on demande là, avec un rassemblement qui aura lieu mardi à 8h30, au moment où je serai convoquée, ainsi que Rima Hassan. Mardi, porte de Clichy, j'invite toutes celles et ceux qui sont attachés à la liberté d'expression, attachés à la liberté d'opinion, de venir à ce rassemblement
donc,
avec de nombreuses personnalités.
Vous répondrez à la convocation, vous irez donc, et qu'est-ce que vous direz à la police?
Eh bien ça, je leur réserve. Je leur réserve ce que je vais dire, mais il n'y a jamais eu, de notre part, jamais eu d'apologie
du
terrorisme.
La question
initiale,
c'est est-ce que vous
d'avoir tenu à tout moment le langage du droit international. Et dès le 7 octobre, dans notre communiqué, nous appelions au cessez-le-feu. Voilà ce que nous faisons.
Vous maintenez ces propos dans leur intégralité? Les propos
mais
qui étaient...
Le communiqué de presse de mon groupe parlementaire, rendez-vous compte de ce qui est en train de se passer. Je vais aller devant une brigade criminelle. Vous n'avez aucun problème à ce qu'une présidente de groupe parlementaire aille expliquer une opinion politique devant une brigade criminelle. C'est ça qui est en train de se passer.
Donc vous dites que c'est une tentative d'intimidation?
Mais bien sûr, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois une tentative de faire taire l'ensemble des voix qui s'élèvent contre le génocide en Palestine. Et je vais vous dire que nous ne nous tairons pas et nous ne baisserons pas les yeux. Et nous continuerons à dénoncer ce que fait l'extrême droite de Netanyahou. Mais il y a une atteinte à la démocratie fondamentale. C'est la première fois de toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente de groupe parlementaire est convoquée pour un fait aussi grave, apologie du terrorisme, sur des accusations.
Alors vous avez reçu le soutien de la gauche à ce stade et même du Rassemblement national, d'une partie de la droite qui s'est dit hostile à la judiciarisation de la vie politique. C'est Sébastien Chenu du Rassemblement national qui s'est exprimé en ces termes. Est-ce que vous remerciez les personnes qui vous ont apporté leur soutien?
Mais je vais vous dire, tous les démocrates de ce pays devraient s'indigner sur ce qui est en train de se passer. Parce que nous attaquons les fondements de la démocratie. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion sont des fondements de la démocratie. Quand je vous dis la censure est incompatible avec notre République, la censure est incompatible avec la démocratie, ça devrait inquiéter tous les démocrates de ce pays. Et j'espère que la mobilisation sera nombreuse, pas pour moi, je le redis encore une fois, mais pour la défense de nos libertés démocratiques, c'est ce qui est en jeu. Et le 9 juin, l'élection européenne prend un autre sens avec ce qui est en train de se passer. Manon Aubry devient aussi le bulletin pour défendre justement nos libertés démocratiques.
On reviendra sur cet aspect avec les élections européennes, mais auparavant, vous parlez, vous, d'une censure politique. Est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'il y a une forme de police politique aujourd'hui ?
Je ne sais pas si j'utiliserai le terme directement police politique, mais rendez-vous compte que là, je suis convoqué pour apologie du terrorisme et que ceux qui ont acté les charges contre moi et qui ont donc continué les plaintes jusqu'à la convocation, eh bien, c'est le parquet. Et que le parquet a un problème d'indépendance, ça a été dit par toutes les organisations internationales. Donc, c'est une attaque
donc
directement politique qui a été faite.
Vous vous retrouvez face à la police mardi à cause du gouvernement. C'est ça que vous êtes en train de dire?
C'est le parquet qui a décidé de continuer cette procédure.
Après,
y compris le garde des Sceaux qui a demandé aux magistrats, au parquet et à la police de continuer l'ensemble des convocations et des procédures qui ont été faites sous le sceau d'apologie du terrorisme. Je vais vous dire pourquoi est-ce que l'apologie du terrorisme est dévoyée de cette manière. Parce que c'est une idée de Monsieur Sarkozy qui a ensuite été mise en place par Monsieur Hollande.
Adoptée en 2014.
Cazeneuve, avec en 2014 la rentrée d'apologie du terrorisme dans le code pénal, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Est-ce qu'il faut l'abroger ?
Oui, moi je pense. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un rapporteur spécial des Nations Unies qui a pointé la manière dont la France dévoyait l'apologie du terrorisme. Vous savez, apologie du terrorisme, c'est grave. Quand une personne est condamnée pour apologie du terrorisme, ça veut dire que c'est une ennemie de la nation. Une ennemie de la nation. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes démocratiques? Et je ne vous demande pas, encore une fois, de défendre Mathilde Panot. Je demande à chacun et à chacune de venir mardi à 8h30, porte de Clichy, pour défendre la démocratie.
Mais pour vous, l'apologie du terrorisme ne doit pas être un délit. Aujourd'hui, par exemple, le racisme, l'homophobie, l'appel à la haine, tout ça est condamné par la loi. Et effectivement, l'apologie du terrorisme a été rajoutée dans la loi. Mais pour vous, il faut supprimer l'apologie du terrorisme.
Écoutez, l'apologie du terrorisme est un délit, mais je n'ai jamais fait l'apologie du terrorisme. Rendez-vous compte à quel point maintenant le délit d'apologie du terrorisme.
Vous dites qu'il faut abroger la loi, donc ça veut dire qu'il faut.
Mais il faut revenir à ce qui avait lieu avant. Moi, je suis pour abroger la loi Cazeneuve qui a été faite en 2014 et qui permet d'ouvrir à tout va. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été dénoncé à l'époque pour dire à l'époque que ça allait être dévoyé. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer.
C'est trop large, en fait, c'est ça que vous dites.
Mais oui, vous avez. Une interprétation de la loi de 2014 qui donne du n'importe quoi. Rendez-vous compte que sur un communiqué de presse de mon groupe parlementaire, je suis convoquée comme présidente de groupe parlementaire. Pas moi, Mathilde Panot, citoyenne. Comme présidente de groupe parlementaire pour un communiqué de presse,
si par exemple,
c'est inadmissible. Ça, c'est du jamais vu. C'est inédit.
Si par exemple, et ça s'est déjà produit, même récemment, un imam, par exemple, appelle à combattre et à tuer les juifs. Sous quel... c'est bien de l'apologie du terrorisme.
Oui, mais avant 2014, il y avait de l'apologie du terrorisme. Juste, ce n'était pas rentré dans le code pénal sous une formulation qui était une formulation qui est floue. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on garde l'apologie du terrorisme. J'ai un problème avec le fait qu'on est en train de le vider de son sens. Voilà, parce que l'apologie du terrorisme, c'est grave. Et ça ne correspond en rien à une opinion politique qui a été exprimée par mon groupe parlementaire.
Ce que vous avez écrit précisément le 7 octobre, c'est que vous décriviez une offensive armée de forces palestiniennes. C'était le Hamas. C'était ce qu'a fait le Hamas, les massacres du Hamas. Est-ce que c'était une offensive d'une armée de forces palestiniennes, ce qu'a fait le Hamas?
Écoutez, j'ai utilisé, vous regarderez ce que dit la Cour pénale internationale, qui utilise les mêmes termes que les nôtres. Alors, et je vais vous dire, à chaque instant, nous avons utilisé les mots du droit international. Nous n'avons jamais accepté les crimes de guerre qui ont été commis par le Hamas. Nous les avons condamnés.
Quand plus de 1100
civils... Aucun crime de guerre ne justifie d'autres crimes de guerre.
...sont tués, massacrés, violés, enlevés. Pour vous, ce n'est pas du terrorisme, ça reste un crime de guerre. Ce qui veut dire que c'est comme une forme d'armée régulière qui aurait attaqué une autre armée régulière, Israël. Là, ce n'était pas une armée régulière,
c'était des civils. Diriez-vous que l'ONU fait de l'apologie du terrorisme ? Diriez-vous que Amnesty International fait de l'apologie du terrorisme? Je vous pose la question.
Ce n'est pas la question.
Si, c'est la question, non, parce non, que eux non plus n'ont pas utilisé le mot terrorisme.
Ça, vous ne répondez pas à ma question.
Eux non plus n'ont pas utilisé le mot terrorisme. Et j'ai expliqué 1000 fois, mais je peux vous réexpliquer, il n'y a pas de souci, pourquoi nous n'avons pas utilisé le mot organisation terroriste. Parce que nous ne voulions pas rentrer dans une lecture imposée par l'extrême droite, qui essaye de faire croire que nous serions dans une guerre du bien contre le mal, où le droit international n'existe plus. Nous, nous voulons rester dans les clous du droit international.
Vous considérez que c'est des faits de guerre? L'attaque du Hamas,
considérez que la guerre entre Israël et la Palestine a commencé le 7 octobre? Moi, je ne crois pas cela. Là, ce qui est en train de se passer en Palestine...
Donc, le 7 octobre est un fait parmi d'autres dans ce qui se passe au Proche-Orient.
C'est un fait extrêmement grave qui a emmené une escalade beaucoup plus forte. Mais ça n'a pas commencé le 7 octobre. Nous sommes dans une guerre de colonisation, de territoire. Ce n'est pas une guerre de religion.
Mais dans vos propos, et pour bien comprendre, ça veut dire que la réponse du Hamas était quelque part légitime. Ce qu'a fait le Hamas.
Je n'ai pas dit ça, nous avons condamné.
Vous dites que ça vient s'inscrire dans une série de faits. Donc ça veut dire
Vous savez, expliquer l'histoire. Enfin, vous vous rendez compte que là, il y a des historiens, par exemple, pour avoir juste rappelé des faits qui sont convoqués pour apologie du terrorisme. Est-ce que vous vous rendez compte? Du débat démocratique et public on a été. Nous sommes les voix de la paix. Et je suis fière d'être avec les peuples du monde, avec la jeunesse des universités, d'être celles et ceux qui crions que nous ne laisserons pas la Palestine disparaître sans rien dire. Nous ne laisserons pas les Palestiniens se faire tuer en silence.
Et est-ce que vous pensez que le Hamas veut la paix?
Et appeler au cessez-le-feu n'est en rien une apologie du terrorisme.
Est-ce que le Hamas peut faire partie d'une solution de paix?
Vous savez, quand on négocie toujours avec les ennemis. Vous avez vu qu'en ce moment, sur la trêve, Israël, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, a fait une proposition au Hamas qu'il est en train d'examiner. Donc, tout le monde dit ça. Arrêtez de tamponner les gens avec apologie du terrorisme parce que nous disons qu'il faut une solution diplomatique.
Vous parlez, vous, d'une branche armée du Hamas, donc qui a fait le 7 octobre, et d'une branche politique du Hamas. Cette branche politique, elle peut quand même interroger. C'est quand même un mouvement islamiste. Je peux même développer, qui est théocratique, anti-féministe, anti-démocratique. Est-ce qu'il y a un moment où le Hamas peut être considéré comme un interlocuteur et une force comme une autre?
Mais écoutez, quand vous faites des négociations, vous négociez toujours avec votre ennemi. Et je vais vous dire, nous n'avons aucune sympathie pour le Hamas, ni pour ses méthodes. Ce n'est pas ça qui est en jeu. La question qui est en jeu, c'est de dire qu'il y a d'ores et déjà plus de 35 000 morts palestiniens et que nous savons que ce chiffre est sous-estimé, qu'il reste des otages à Gaza.
C'est un chiffre donné par le Hamas, les 35 000 morts.
Oui, et qui ne compte pas, par exemple, les personnes qui meurent du fait d'absence de médicaments, la famine qui est utilisée comme arme de guerre, qui ne compte pas ceux qui ont été tués dans les massacres de la farine, par exemple. Mais il faut arrêter d'avoir une forme de minimisation et de déshumanisation des gens. Voilà contre quoi nous nous élevons. Nous ne sommes pas d'accord pour expliquer que les Palestiniens seraient des victimes collatérales. Les Palestiniens sont des êtres humains. Et ce que nous défendons, c'est l'égale dignité des êtres humains,
quel que soit l'endroit où l'on vit dans le monde. Vous aussi les Israéliens sur le 7 octobre. On peut aussi vous rétorquer cet argument-là.
Et pourquoi donc,
Parce que vous
en quoi je déshumanisais les Israéliens?
Parce que vous relativisez.
Je n'ai jamais relativisé.
Est-ce que vous reconnaissez que c'est le plus grand massacre
de... Non, là, vous êtes en train de dire votre propre point de vue. Je n'ai jamais relativisé.
Est-ce que vous reconnaissez que le 7 octobre, c'est le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah?
Mais je n'ai pas de problème à dire ça. Enfin, je trouve ça absolument incroyable. Nous sommes face à un génocide qui est fait par M. Netanyahou sur le peuple palestinien. Ce n'est pas une guerre Israël-Hamas, nous n'avons eu de cesse de le répéter. Vous avez pratiquement la moitié des victimes qui sont des enfants. En quoi des enfants sont responsables de ce qu'a fait le Hamas. Et vous ne cessez de dire ou de faire croire que nous n'aurions pas condamné les crimes de guerre commis par le Hamas. Nous les condamnons et nous redisons. Aucun crime de guerre ne justifie d'autres crimes de guerre et encore moins un génocide. Et toutes les vies se valent, toutes sans exception. Voilà le langage humaniste que nous tenons.
Vous savez que ce terme génocide est contesté?
Oui, mais moi je l'utilise et je m'appuie notamment sur ce qu'a fait la Cour internationale de justice en disant le 26 janvier qu'il y avait un risque génocidaire. Or depuis, qu'a dit Netanyahou, et c'est une des choses qui nous préoccupe,
Pour être précis, la Cour internationale de justice n'a pas dit ça, elle a dit que les Palestiniens ont le droit d'être protégés contre un éventuel génocide.
Un éventuel génocide, très bien. Et bien
le
depuis,
droit d'être protégé,
ils avaient demandé
tout,
à l'ensemble des Palestiniens d'aller vers le sud, où maintenant il y a 1,5 million de Palestiniens qui se retrouvent sans eau, sans électricité, étaient dans des tentes sans médicaments, et avec Benjamin Netanyahou qui explique qu'il va mener une offensive armée à Rafah. Voilà de quoi nous devrions parler. Comment la France peut-elle agir face à cela ? Eh bien, notamment, la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle aurait pu et elle devrait déposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour exiger le cessez-le-feu permanent.
Alors, ce qui est travaillé par la diplomatie française, c'est justement une proposition de résolution à l'ONU pour qualifier l'attaque du 7 octobre de terroriste et œuvrer en vue d'une solution à deux États. Est-ce que vous saluez cette démarche ?
Nous sommes partisans du droit international, je vous l'ai dit, et notamment de la résolution de deux États.
Le ministère des Affaires étrangères travaille actuellement sur ce projet de résolution.
Mais laissez-moi répondre à ça. Il se trouve que la France pourrait d'ores et déjà reconnaître l'État de Palestine. Vous le savez, il y a 139 États dans le monde qui reconnaissent déjà l'État de Palestine, la dernière en date étant la Jamaïque, et l'Espagne a notamment indiqué qu'il le ferait avant l'été, de même que l'Irlande, Malte et la Slovénie y réfléchissent. Donc la France pourrait d'ores et déjà reconnaître unilatéralement, immédiatement, l'État de Palestine, ce qui serait un signal pour la paix et notamment s'inscrirait dans les pas des résolutions de l'ONU sur la solution à deux États, qui serait, je crois, un signal très important. Alors, Emmanuel Macron a dit que ce n'était pas un tabou, mais derrière, rien ne se passe.
Le ministère des Affaires étrangères répond qu'il faut d'abord la paix avant de vrai pour
Eh bien, justement, non. On a besoin d'avoir des actes qui sont posés pour la paix. Et dans les actes qui sont posés pour la paix, ce que demandent les étudiants et les peuples partout dans le monde, c'est l'interdiction des ventes d'armes au gouvernement d'Israël. Pourquoi l'interdiction des ventes d'armes ? Ça ne vous a pas échappé que vos confrères journalistes ont révélé que, après le 7 octobre, fin octobre, en novembre, la France a livré en grand secret des munitions pour fusils mitrailleurs, ce qui sont les mêmes munitions qu'on retrouve dans le massacre de la famine.
Le ministère des Affaires étrangères parle de pièces détachées.
De la farine. Oui, en tout cas, ces pièces détachées ont été utilisées dans le massacre, auraient été utilisées, puisque ce sont les mêmes choses, dans le massacre de la farine. Eh bien, que nous a répondu le gouvernement lorsque nous avons demandé un embargo sur les armes ? Et j'ai été à l'initiative d'une lettre à Emmanuel Macron de 115 parlementaires pour demander l'embargo sur les armes. Que nous a-t-il répondu ? Israël n'a théoriquement pas le droit d'utiliser ses armes dans la bande de Gaza. Bon, je ne sais pas si vous y croyez, moi je n'y crois pas une seule seconde, d'autant qu'aucune pièce n'a été apportée pour justifier cela.
Je reviens un instant.
Eh bien, justement, la France doit agir sur cette question. Et je rappelle que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël et que lorsque nous parlons de sanctions pour forcer Netanyahou à arrêter l'offensive qui se mène actuellement sur Gaza, eh bien, arrêter l'accord de partenariat et d'association entre Israël et l'Union européenne serait là aussi un symbole très important pour la paix.
Je reviens vite dessus, mais je reviens un instant sur l'emploi du mot génocide que vous faites pour ce qui se passe à Gaza. Bachar el-Assad, le dictateur syrien, a-t-il été auteur d'un génocide lorsqu'il a tué, dans les années 2010, plus de 300 000 personnes ?
De crimes contre l'humanité.
Ah bon, alors là, c'est pas un génocide.
Écoutez, je vais vous dire sur quoi nous nous appuyons. Depuis le 26 janvier, pour prévenir le risque de génocide, vous avez dit protection.
Sur la définition du génocide, juste pour poser les choses, il s'agit d'éliminer une population de manière planifiée. Est-ce que vous dites aujourd'hui, Israël est en train d'éliminer de manière planifiée une population ?
Comment vous appelez ça d'autre ? Lorsque vous avez un blocus total, sans eau, sans nourriture, avec des bombardements d'hôpitaux, avec des fosses communes, vous n'en parlez pas, j'en suis surprise, des fosses communes qui ont été découvertes avec 300 corps de Palestiniens, dont certains n'avaient plus de tête, plus de peau et plus d'organes, selon les journalistes qui étaient présents sur place, et avec une impossibilité totale de fuir. Lorsque vous avez des guerres, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont faits à certains des endroits, ce qui est bien sûr absolument inadmissible et condamnable, souvent, les populations ont la possibilité de fuir. Où les Palestiniens peuvent-ils fuir ?
Je reviens sur mon exemple, pardonnez-moi, mais quand c'est Bachar el-Assad, il s'agit d'un crime de guerre. Quand c'est Israël, un mot qui a quand même un sens, vous parlez de génocide.
Mais en fait, qu'est-ce que vous essayez de me faire dire ?
J'essaye de clarifier vos propos.
Oui, mes propos. Je m'appuie sur le droit international, sur le risque génocidaire qui a été pointé à la plainte de l'Afrique du Sud, à la saisine de l'Afrique du Sud, et qui, depuis, s'est aggravé, puisque après avoir demandé à tout le monde d'aller vers le Sud, maintenant, ils envisagent une offensive armée sur le Sud, où les gens n'ont nul autre endroit où fuir.
Quand la Russie aidait Bachar el-Assad pour bombarder la population. Là, il ne s'agissait pas d'un génocide.
Mais vous qu'est-ce que vous essayez de faire, en fait, monsieur?
Bah non, mais je vous pose.
Qu'est-ce que vous essayez de faire? Que nous aurions. Nous n'avons pas de poids, de mesure, comme le fait sans cesse notre pays et Emmanuel Macron.
Dans un cas, c'est un génocide, dans l'autre, il s'agit de crimes de guerre. C'est pour ça que là.
Mais vous savez que le génocide ne se détermine pas par rapport au nombre de morts, qu'il y a des critères de génocide qui sont faits, et que la Cour internationale de justice a regardé vis-à-vis justement de ces critères. Et que le seul critère qui était encore en question, c'était l'intention du génocide. D'accord? Donc, vous savez que ce n'est pas le nombre de morts qui détermine un génocide, vous le savez.
Donc vous considérez qu'Israël est effectivement dans une volonté et dans une politique.
Vous avez une rhétorique génocidaire qui est utilisée par le gouvernement israélien. Lorsque vous avez des membres du gouvernement israélien qui expliquent que les Palestiniens sont des animaux humains, lorsque vous avez des membres du gouvernement israélien qui expliquent qu'il faudrait jeter une bombe atomique sur Gaza pour les faire tous disparaître, ou quand vous avez encore des membres du parti de M. Netanyahou qui expliquent que tous les Palestiniens sont coupables et qu'aucun n'est innocent, même des enfants, oui, ça s'appelle une rhétorique génocidaire. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi la Cour internationale de justice s'est notamment appuyée pour dire qu'elle était extrêmement inquiète de cette rhétorique génocidaire qui a été utilisée et qui est une manière de déshumaniser l'autre. Vous le savez, à chaque fois, ça se base sur la déshumanisation.
Une question, êtes-vous ou considérez-vous que vous êtes anti-sioniste ?
Ce n'est pas la question, parce que vous allez en faire tout un sujet. Ce n'est pas la question. Moi, je suis sur la résolution à deux États. Eh bien oui, moi, je suis sur la résolution à deux États qui est la seule à même de faire en sorte que le peuple israélien et le peuple palestinien puissent vivre en paix et en sécurité.
C'est deux États ou c'est un État binational?
C'est deux États. Nous nous appuyons sur le droit international et les résolutions du droit international disent deux États.
Quand Rima Hassan, votre candidate effectivement septième sur la liste pour les européennes, chante pas plus tard que vendredi « From the river to the sea », de la rivière jusqu'à la mer, ce qui veut dire donc un État palestinien où il n'y a plus Israël. Est-ce que vous êtes gêné ou pas ?
Non, je vais vous expliquer. D'ailleurs, elle l'a dit, Rima Hassan l'a dit à plusieurs reprises. Rima Hassan a dit que dans son idéal, et aussi par le fait qu'elle perdait espoir sur le fait qu'il puisse y avoir deux États, dans son idéal, elle espérait un État binational où les Palestiniens et les Israéliens auraient les mêmes droits. Voilà ce qu'elle pointe dans son idéal.
Ce qui veut dire
qu'il
n'y a plus d'État
d'Israël. Si.
Par définition,
bah, si. Il y a un État binational, il y a Israël-Palestine, il y a un État binational avec des citoyens qui ont les mêmes droits. Mais elle dit, si je me suis engagée politiquement, c'est justement pour retrouver un espoir, et je suis d'accord avec le fait qu'on s'appuie sur le droit international pour aller vers la solution à deux États. Après, si les acteurs s'entendent différemment et décident d'aller vers une solution différente, nous ne dirons pas non. Mais nous prenons le droit international et la solution à deux États sur les frontières.
Donc du jour d'un à la mer, ça, vous ne le reprenez pas à votre compte?
Mais je vous explique pourquoi elle a dit ça. Enfin, après, vous pouvez faire des polémiques de tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, quel mal y a-t-il à espérer dans un idéal que chacun et chacune ait les mêmes droits? Enfin, quel mal y a-t-il à cela? Donc, Rima Hassan, comme nous, porte la solution à deux États sur notre liste, ce qui est inscrit dans notre programme. Et je rappelle par ailleurs que nous sommes les seuls à avoir un programme complet pour l'élection européenne. Et donc, Rima Hassan porte cette voie comme nous.
Mathilde Panot, des manifestants pro-palestiniens ont occupé une partie de Sciences Po à Paris, jeudi et vendredi. Ils ont été évacués vendredi soir après un accord trouvé avec la direction de l'établissement. Certains députés de votre groupe, cinq députés, ont manifesté auprès de ces étudiants bloqueurs. Est-ce qu'ils étaient à leur place auprès d'eux?
Bah, bien sûr, et moi je veux saluer la jeunesse magnifique de ce pays dont on dit qu'elle ne lirait plus, dont Emmanuel Macron explique que la jeunesse devrait maintenant rêver d'être millionnaire, que donc s'intéresser à l'argent, et qui justement fait preuve d'une non-indifférence à ce qui se passe dans le monde, qui je trouve est admirable. Donc nous y étions évidemment pour soutenir leurs revendications, notamment l'abandon des sanctions disciplinaires contre des étudiants qui avaient justement manifesté leur solidarité avec
accepté par la direction de l'école.
Ce qui a été accepté.
Pourquoi ne pas dire oui au soutien à la cause palestinienne, mais n'empêcher pas les étudiants et les professeurs d'aller en cours?
Vous savez, vous vous rappelez de 1968 et de la manière dont c'était embrasé dans l'ensemble des universités, notamment à partir de Columbia, qui est lui aussi en ce moment occupé
Donc
par des étudiants.
Vous voulez refermer 68?
Non, alors c'était sur la guerre du Vietnam. Mais moi, je salue le fait que la jeunesse de ce pays s'engage pour la paix. Je salue le fait que cette jeunesse dise que l'humanité commune que nous avons avec des êtres humains, quel que soit l'endroit où ils vivent dans le monde, nous touche.
Est-ce que vous appelez de vos voeux des blocages généralisés dans les
universités ? Je les soutiendrai autant de fois qu'ils le feront. Et à chaque fois que des étudiants, le peuple se mettra en mouvement pour leurs droits ou pour soutenir l'égale dignité des êtres humains, à chaque fois nous serons là.
Et le je vais vous expliquer Gabriel Attal une deuxième chose. Le premier ministre Gabriel Attal dit qu'il n'y a pas de droit au blocage. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Bien, pour se faire entendre, il faut parfois bloquer.
Et les présidents d'université, eux, qui pointent le risque d'instrumentalisation politique ?
Mais nous n'avons en aucun cas instrumentalisé politiquement les gens. Vous savez, la jeunesse a un cerveau. Ils savent pourquoi ils font ça. Ils savent pourquoi ils ont continué cela. Et si nous étions là, c'était évidemment pour soutenir leurs revendications, mais aussi pour éviter que le blocage se déroule mal. Nous l'avons fait à chaque moment. Pendant les manifestations retraites, là aussi, les députés étaient là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de répression sur les manifestants. Lorsqu'il y avait Sainte-Soline, condamnée par les instances internationales avec une grenade par seconde sur des manifestants sur le partage de l'eau, nous étions là aussi et Mathilde nous serons Panot. Là à chaque moment pour défendre les intérêts de l'intérêt général humain.
Mathilde Panot, sur le plan politique, Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, dit dans le Figaro, la figure du Palestinien est devenue dans la culture d'extrême-gauche la nouvelle figure du dominé. Quelque part, l'islamisme a imposé au gauchisme cette figure du Palestinien comme damné de la terre. Vous l'observez aussi, ce phénomène ?
Non, mais alors, ça n'a rien à voir avec l'islamisme. Expliquez-moi ce qu'a à voir le fait que des enfants se fassent massacrer avec l'islamisme. Qu'est-ce que ça a à voir ? Rien. Par contre, c'est vrai, la Palestine devient un symbole dans le monde. Et je vais vous citer ce que dit Elias Sambar, qui est l'ancien ambassadeur de Palestine, qui est un écrivain très connu, qui dit « La Palestine est une arête coincée dans la gorge du monde. Personne ne parviendra à l'avaler. »
Ça devient le sujet numéro un de votre campagne pour les élections européennes.
Mais nous sommes conséquents, monsieur. Lorsque nous disons qu'il y a un génocide, nous ne taisons pas parce qu'il y a une campagne électorale. Donc nous sommes conséquents. Et nous mettrons toutes nos forces pour obtenir un cessez-le-feu permanent.
Est-ce que vous voulez, par cela, mobiliser certaines catégories d'électorats ?
Vous voyez, qui est en tête dans les sondages ? S'il était électoraliste, je regarderais les sondages. Qui est en tête dans les sondages ?
Par exemple, dans l'électorat.
Monsieur Jordan Bardella, qui n'a de cesse, avec les médias colorés, de pointer les personnes considérées comme noires, les personnes considérées comme arabes, etc. Donc, si j'étais électoraliste dans le sens dont vous parliez, eh bien, à ce moment-là, moi-même, je participerais
pour
entretenir une haine à attiser contre les étrangers. Eh bien, je fais tout le contraire, monsieur. Donc, je ne suis pas électoraliste, je suis cohérente. Ça s'appelle avoir des convictions. Et mes convictions sont qu'un génocide ne peut pas se passer de l'autre côté de la Méditerranée sans que j'en parle, sans que je dénonce ce qui est en train de se passer, parce que c'est notre humanité qui est foudroyée.
On va reparler de vos convictions et de cette campagne pour les élections européennes. Dans un instant, ça sera dans la seconde partie de ce Grand Jury avec Mathilde Panot. À tout de suite.
Le Grand Jury RTL Le Figaro Paris Première M6.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. J'ai profité de votre offre 2 plus 1 offert sur les perles de lait.
Oh, trop bon ça.
Oui, mais bizarrement, le pack offert est encore meilleur que les deux autres. Vous savez pourquoi ?
Ah, ça, c'est juste le goût des bons plans. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération de super pouvoir d'achat chez Leclerc, le troisième pack offre découverte perles de lait vanille est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Même promotion disponible sur d'autres variétés, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Le jour où son mari Aymeric est victime d'un grave accident de voiture, Alice voit sa vie s'écrouler. Face à l'incertitude du destin, elle va devoir s'adapter aux épreuves pour faire renaître l'espoir. Prendre la vie comme elle vient, un roman qui nous parle de la vraie vie. Cette vie remplie d'obstacles, mais surtout d'amour et de courage. Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte est disponible aux éditions Pocket.
Vous voulez des essuie-glaces gratuits ? C'est en ce moment chez Carglass. Et oui, jusqu'au 10 mai, si vous faites réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glaces Bosch. Vous avez bien entendu, vos balais Bosch gratuits. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Ah, Lille entre potes, c'est tout un programme. Passage par la Grand Place, détour dans le Vieux-Lille, sa citadelle, ses fricadelles, ses frites, son Welsh. Là, votre pote vous dit...
Mmh, oh, C'est une tuerie, ce Welsh.
Mais ce que vous lui dites pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Anthony, directeur de l'hôtel Kyriad Lille, qui vous a partagé ses adresses pour un séjour au top. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriad vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriad.com. RTL.
RTL, il est midi et demi. Un point sur l'actualité avec Pierre Collat. Bonjour Pierre.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Peut-être un espoir de trêve à Gaza. On apprend qu'une délégation du Hamas va se rendre au Caire demain pour rejoindre les discussions sur un éventuel cessez-le-feu. C'est un responsable du mouvement palestinien qui l'a déclaré il y a quelques minutes à l'agence de presse Reuters, alors que le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan. Selon lui, 34 454 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, date de début du conflit avec Israël, 66 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures. Elon Musk est en Chine, le patron de Tesla en visite surprise dans le pays qui compte le plus gros marché pour les véhicules électriques. C'est la deuxième fois qu'Elon Musk se rend en Chine en moins d'un an. Controversé dans le monde occidental, le milliardaire est admiré là-bas. La Tesla se vend très bien auprès de la classe moyenne chinoise. En France, un nouveau parquet pour lutter contre la criminalité organisée doit voir le jour. Annonce du ministre de l'Intérieur ce matin, du ministre de la Justice, pardon, Éric Dupond-Moretti, qui souhaite aussi la création d'un nouveau statut de repenti. Le sport avec de la Ligue 1 aujourd'hui suite de la 31e journée. Rennes-Brest à 17h, Lyon-Monaco à 19h avec un enjeu particulier puisque si Monaco ne gagne pas, le PSG est champion de France dès ce soir. L'affiche de la soirée ce sera Marseille-Lens, coup d'envoi 21h. Ligue des champions féminines au programme également. Les Parisiennes affrontent Lyon en demi-finale, c'est à 16h. L'actualité foot ce soir sur RTL, c'est entre 20h et 23h. RTL foot autour d'Éric Silvestro. Et avant ça, 19h15, Isabelle Langer vous attend pour Orphée le sport, où elle reviendra notamment sur la mort de Ayrton Senna. Notez également le Grand Prix d'Espagne en moto, c'est à 14h. Votre météo pour ce dimanche, après un temps très orageux du Languedoc à la région lyonnaise et à l'Alsace, ce sera un dimanche plus lumineux en Corse et dans les Alpes-Maritimes. Le nord et l'ouest vont retrouver un ciel changeant avec des nuages et des averses, mais aussi des passages, des périodes ensoleillées. Les températures, il fera 13 degrés à Dijon, 16 à Paris et 20 degrés à Toulon. Les courses, c'est à Longchamp aujourd'hui. Voici les préférés de Dominique Cordier. Le 9, le 5, le 12, le 11, le 4, le 8, le 2. L'outsider de RTL, c'est le 11 Tumblr. Départ à 15h15. RTL, il est 12h31. Dans un instant, vous retrouvez la suite du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première de Mathilde Panot. Et c'est présenté par Olivier Bost.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou, c'est tout propre ça.
Va falloir éviter les moustiques, hein.
Mais pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,49€.
Les tomates anciennes?
Bon, comment vous avez deviné? Dès demain chez Lidl, le kilo de tomates anciennes est à 2,49€.
2,49€ le kilo de tomates anciennes? Mais ce prix, je vais le prendre en grippe.
Bah, c'est le vrai prix, patron, hein?
Oui, bah, t'arrêtes, hein, parce que je vais me fâcher tout rouge.
Bah, tout rouge, oui, comme une tomate.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 2, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RTL.
Jury, présenté par Olivier Bost.
Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, est notre invitée ce dimanche. Mathilde Panot, nous allons parler des élections européennes. Votre candidate Manon Aubry est créditée, votre tête de liste est créditée de 8 à 9% des voix dans les intentions. Une question de Pauline Buisson.
Oui, Mathilde Panot, près de 3 électeurs sur 10 de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle ont l'intention de voter pour Raphaël Glucksmann dans les européennes, selon le dernier sondage IFOP pour Le Figaro. Pourquoi cette fuite de vos électeurs vers le Parti Socialiste, selon vous ?
Alors, on verra ce que donne l'élection, le jour de l'élection. Je rappelle qu'une élection se joue le jour où les gens se déplacent pour aller mettre des bulletins dans l'urne. Moi, je ne crois pas du tout au fait que 30% des gens qui auraient voté pour Jean-Luc Mélenchon aillent voter pour Raphaël Glucksmann. Et je vais vous dire
sur quoi... Vous ne voyez pas de fuite de vos électeurs vers le PS ?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est intéressant, l'IFOP, qui publie, vous le savez maintenant, un sondage quotidien. Bon, non seulement la dernière fois, c'était trompé juste de 5 points lors de l'élection présidentielle, puisqu'il y avait 5 points en moins par rapport aux 22% qu'avait eu Jean-Luc Mélenchon et l'avenir en commun au présidentiel de 2022. Mais en plus de ça, quand on regarde pour montrer que leur échantillon est représentatif, ils demandent aux gens de leur échantillon qui a voté quoi en 2022. Et il se trouve que le seul sur lequel il y a un écart extrêmement grand, c'est Jean-Luc Mélenchon, pour lequel seuls 13,9% des gens de l'échantillon disent avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon, alors que vous le savez, nous avons fait quasiment 22%. Donc nous verrons ce qui se passe le jour de l'élection. Mais je vais vous dire, l'honneur de la France Insoumise et de l'Union Populaire, c'est d'être les seuls à faire campagne sur l'inscription sur les listes électorales, alors que Emmanuel Macron refuse depuis 2016, et l'État depuis 2016, de faire des campagnes d'inscription sur les listes. Avant, vous aviez, par exemple, des clips à la télé pour vous inviter à vous inscrire. Et c'est 12 millions de gens dans ce pays qui sont non et mal inscrits. Eh bien, c'est notre honneur de refuser des élections sans le peuple. Et je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, vous avez jusqu'au 1er mai en ligne pour vous inscrire et jusqu'au 3 mai pour vous inscrire en mairie.
Sur le volet plus politique, vous craignez pas le réflexe du vote utile pour Raphaël Glucksmann qui est devant au niveau de la gauche?
Je ne crois pas que les gens aient très envie que François Hollande revienne. Je ne crois pas que les gens aient très envie de mettre un bulletin de vote pour quelqu'un qui est visiblement va en guerre. Donc non, je ne crains pas cela. Et nous continuons à la fois de dire que le bulletin pour Manon Aubry, c'est le bulletin de la paix, c'est le bulletin contre le racket social alors qu'on nous annonce une austérité sans précédent. Et c'est le bulletin pour, eh bien, défendre nos libertés fondamentales.
Vous avez déjà annoncé. Justement, vous dites quelqu'un de va-t-en-guerre. Ça veut dire que sur l'Ukraine, par exemple, il faut, d'après vous, moins soutenir ce pays ?
Alors, c'est pas une question de moins soutenir l'Ukraine. Nous avons dit à chaque instant qu'il fallait soutenir le peuple ukrainien face à la violation du droit international fait par la Russie. Mais nous croyons à la solution diplomatique. Et je vais vous dire, cette solution diplomatique avance.
Si on n'est pas militairement...
Malheureusement, pas grâce à la France, grâce à la Suisse, à l'Allemagne et à la Chine, qui vont faire les 15 et 16 juin en Suisse une conférence pour la paix auquel M. Zelensky a d'ores et déjà annoncé qu'il allait participer. Eh bien, c'est une bonne initiative.
Oui, en attendant, il ne faut pas que l'Ukraine tombe, sinon il n'y a plus de pourparlers de paix. Donc,
oui,
il faut bien aider l'Ukraine.
Oui, mais vous comprenez que plus le temps passe et plus le rapport de force peut être défavorable. Donc, la solution diplomatique sur laquelle nous appelons de nos voeux depuis des mois et des mois doit se faire.
Sur le soutien militaire, quelle est votre position ?
Le soutien militaire, nous disons que nous ne voulons pas être co-belligérants et encore moins rentrer dans les choses délirantes qu'a proposé Emmanuel Macron d'avoir des troupes françaises au sol.
Des armes à l'Ukraine,
c'est quand même la seule fois... Non mais excusez-moi de dire ça quand même, mais rendez-vous compte que non seulement la France n'est plus écoutée au niveau international, mais en plus, lorsqu'elle parle par la voix d'Emmanuel Macron, elle est immédiatement désavouée par l'Allemagne, par la Suède, par l'Autriche et même par l'OTAN.
Quand on fournit des armes à l'Ukraine, sommes-nous co-belligérants, j'arrive pas à le dire.
Co-belligérants,
merci beaucoup.
Eh bien, non. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de problème avec le fait qu'on fournisse des armes. Mais la question, c'est de ne pas rentrer dans le conflit comme étant avec des puissances nucléaires qui s'affronteraient sur un pied tiers que serait l'Ukraine. Et nous ne croyons pas à l'issue militaire de la guerre.
Donc vous n'êtes pas pour accélérer sur le soutien militaire à l'Ukraine ?
Nous sommes pour tenir les promesses qu'a fait notre pays. Voilà, nous sommes pour tenir les promesses qu'a fait notre pays.
Est-ce qu'il faut aussi faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne ? Je rappelle que des négociations d'adhésion ont été ouvertes en décembre
dernier. Alors non, nous sommes en désaccord avec l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne parce que nous ne voulons pas...
Le président Zelensky la demande Il y voit une forme de
soutien. Oui, et le président Zelensky, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais je vous le dis quand même parce que ça nous donne un point. Le président Zelensky va à la conférence de paix, dit qu'il est d'accord avec des garanties de sécurité mutuelle, dit qu'il est d'accord avec le fait de démilitariser les réacteurs nucléaires en mettant des casques bleus, ce que nous demandons depuis le premier mois de la guerre, parce que ça serait une catastrophe dans la catastrophe. De même que le président Zelensky a dit qu'il était d'accord pour le Donbass et la Crimée pour faire des référendums d'autodétermination pour régler la situation de la Crimée et du Donbass.
Et s'agissant de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union
européenne, quand même une sortie par une issue diplomatique de ce qui pourrait être fait.
Et pourquoi vous n'êtes pas favorable donc précisément
Alors
sur
pourquoi nous ne sommes pas favorables? Parce que nous ne voulons pas de l'Europe du dumping social et que nous voulons avoir d'abord une harmonisation des règles, notamment sociales, dans l'Union européenne avant d'accueillir des nouveaux membres. Je vais vous dire, ce n'est même pas notre position juste sur l'Ukraine, c'est notre position sur toute nouvelle adhésion. Et sur la question de l'Ukraine, vous le savez, les agriculteurs sont en mouvement depuis maintenant des mois. Ça veut dire, si l'Ukraine adhérait à l'Union européenne, dans le cas des règles actuelles qui laissent une concurrence libre et non faussée entre les États se faire, et donc un dumping social et environnemental, ça veut dire la fin de l'agriculture familiale dans notre pays. Et je crois qu'il ne peut pas en être question.
Pour en venir à la campagne des européennes, parce que c'est l'un des sujets, il y a la question d'une défense européenne. Par exemple, Emmanuel Macron, la semaine dernière, dans un discours, a défendu cette idée, et dans une interview, il propose maintenant d'aller jusqu'à partager l'arme nucléaire, en tout cas un bouclier nucléaire européen. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est une folie et c'est complètement irresponsable. Je vais vous dire, ça accroît le risque d'un conflit.
Sur quel aspect ?
Sur la
défense européenne ou sur le nucléaire ?
Nous sommes contre l'Europe de la défense par ailleurs, puisque nous sommes favorables à une France indépendante au service de la paix.
Laissez-moi parler de la dissuasion, c'est quand même très important. Non, mais pour refermer sur la défense européenne, si demain Donald Trump ou après-demain Donald Trump est élu aux États-Unis, que l'Europe est lâchée par les États-Unis, est-ce qu'il faut une défense européenne ? Votre position ne changera pas là-dessus ?
Non, notre position ne changera pas, parce que nous ne voulons pas que notre pays puisse être entraîné dans je ne sais quel conflit par d'autres pays qui ne concernent pas les intérêts souverains de la France.
Vous pensez qu'aujourd'hui,
je le dis, la France doit être indépendante au service de la paix.
États-Unis.
Et je vais même vous dire, nous sommes très cohérents, puisque nous ne sommes pas d'accord avec le fait d'être dans le commandement intégré de l'OTAN.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes assez forts pour se passer des États-Unis ? En Europe.
Mais c'est même plus que nous sommes assez forts. Nous devons arrêter d'être à la remorque atlantiste des États-Unis et de se lancer dans les offensives dans lesquelles ils veulent se lancer. Notre pays était fier lorsqu'on a dit non à la guerre en Irak.
La question ne se posera probablement plus si Donald Trump est élu. Mais savoir si on est atlantiste ou pas, c'est la question, c'est comment se défendre.
Oui, non mais je vous dis que moi je suis pour une France indépendante au service de la paix. Je ne sais pas ce qui n'est pas clair dedans, je ne changerai pas d'avis, je suis contre l'Europe de la défense. Par ailleurs, je rappelle que l'Europe de la défense était aussi un des thèmes qui était dans justement le référendum de 2005 et sur lequel les Français ont dit non.
Très bien, maintenant la question du bouclier nucléaire européen.
Alors, je disais, c'est très inquiétant et c'est complètement irresponsable parce que ça augmente le risque de conflit nucléaire en Europe. Et vous ne savez pas ce que crée un conflit nucléaire. Enfin, et c'est normal, puisque depuis 1945, toute l'histoire de l'humanité a changé avec la diplomatie et la guerre qui se mettent au service
du fait
qu'on n'utilise surtout pas cette arme-là.
Le nucléaire, c'est de la dissuasion. Pourquoi pas étendre ce principe de dissuasion au niveau européen ? Si l'Europe est menacée, j'en reviens à Donald Trump qui nous lâche, mais...
Parce que c'est complètement en contradiction avec la doctrine nucléaire française. La doctrine nucléaire française, c'est nous ne croyons pas au parapluie, c'est on ne va pas déclencher un feu nucléaire pour un autre pays. Et je vais vous dire, le principe de la dissuasion fonctionne justement parce qu'on sait qu'il est possible de l'utiliser. Or, personne ne croira une seule minute que nous allons utiliser l'arme nucléaire pour un autre pays.
Mais si un pays européen est attaqué ? Par exemple, par la Russie.
Vous pensez vraiment que l'arme nucléaire est une bonne solution ? Vous savez que l'arme nucléaire peut détruire une région entière ? On parle d'êtres humains millions qui seraient affectés par cela.
Poser le principe « un pays européen est attaqué, la dissuasion nucléaire française est engagée », ça a un sens, non ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que justement, je vais vous dire même, il va falloir aller vers le désarmement nucléaire du monde. Donc ça n'a aucun sens, si ce n'est d'accroître les risques d'un conflit nucléaire qui serait catastrophique pour l'humanité toute entière.
Est-ce que vous considérez aujourd'hui que notre dissuasion nucléaire nous protège ?
Bah, en tout cas, nous disons, nous sommes pour aller dans des négociations au niveau international pour le désarmement nucléaire. Je ne crois pas que ça aide que la France enlève sa dissuasion nucléaire immédiatement. Au contraire, nous devons garder la dissuasion nucléaire, aller négocier et petit à petit aller vers des traités de désarmement nucléaire du monde. Parce que je le redis, si à un moment il y a un conflit nucléaire, c'est des continents entiers qui seraient affectés par ce conflit nucléaire. Je veux quand même qu'on réalise ce dont on est en train de parler, hein.
Quand Emmanuel Macron dit « notre Europe est mortelle », est-ce que vous dites qu'il fait le bon diagnostic ? Est-ce que vous êtes aussi alarmiste ?
Bah, je crois que ce qui tue l'Europe actuellement, c'est le fait justement d'avoir construit une Europe sur un dumping permanent, où à la fin vous avez une Europe où on vous indique que vous allez avoir la pire cure d'austérité, c'est ce qui a été voté cette semaine au Parlement européen, où on revient aux règles absurdes des 3% de déficit, vous savez cette fameuse règle d'or, voire même jusqu'à 1,5% de déficit, et on explique aux Français que maintenant c'est leur assurance chômage qui va disparaître, c'est les jours de carence pour maladie qui vont disparaître, c'est les logements sociaux dont on va expulser 400 000 personnes, c'est le statut de fonctionnaire qui doit disparaître, etc. Bref, tous les services publics.
Il ne s'agit pas que de disparition, mais... Non, il y a des moments, par exemple, sur
Sur le statut de fonctionnaire,
c'est une réduction, par exemple.
Comment ?
Mais
vous savez que, par exemple, sur le chômage, vous avez aujourd'hui 57% des personnes privées d'emploi qui ne sont pas indemnisées. Vous savez qu'il y a eu, en 3 ans, plus 50% de gens qui ont été radiés de Pôle emploi.
Puisque vous évoquiez les 3%, vous dites, à propos de la dette, il faut désarmer et expulser les agences de notation, non au chantage de la dette. De quel chantage parlez-vous ? On a 3 000 milliards d'euros de dette.
Eh bien, justement, vous savez que les agences de notation ont une fonction normative. Et donc, ça fait un chantage à la dette, ou si on dégrade votre note, eh bien, derrière, c'est sur les prêts et sur toute autre chose que les agences de notation doivent être prises en compte.
C'est la capacité financière du pays, son sérieux
budgétaire. Oui, mais vous savez, par exemple, qu'on pourrait inventer d'autres notes. Moi, je serais très heureuse qu'on note la France sur le fait que, par exemple, il y ait zéro personne qui dorme à la rue. Je serais très heureuse qu'on note la France sur le fait que chaque enfant aille à l'école avec le ventre plein et le droit à juste un professeur en face de lui. Je serais très heureuse qu'on note la France sur, vous savez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale sur la question de la sécurité et la santé au travail, sur le fait que la France arrête d'être la championne d'Europe sur le nombre de morts au travail, ce qui est indigne de notre pays.
Ce que vous dites, c'est que la dette n'est pas un sujet.
Eh bien, oui, nous disons que nous pouvons annuler une partie de la dette et qu'il faut justement dépenser plus dans les services publics
et
arrêter d'avoir 50 milliards par an depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé qui sont donnés aux plus riches et aux multinationales.
Si on annule la dette, comment on fait pour trouver des gens qui nous prêtent de l'argent ensuite ?
Mais par la BCE, vous pouvez refaire des systèmes internes. En fait, vous n'êtes pas obligé d'aller sur les marchés pour pouvoir emprunter.
Oui, enfin, à la fin, ce genre de système, on le paye par une inflation.
Non. Il n'y a aucune raison qu'on le paye par une inflation. Vous trouvez qu'en ce moment, la situation est très bonne pour nous ?
Non, mais ce qu'on
paye à travers l'inflation, c'est
des périodes... Donc, vous ne dites pas, comme certains dans l'opposition, que le gouvernement gère mal le budget de la France. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans certaines oppositions, notamment à droite.
En tout cas, c'est la chose classique que font les libéraux. Donc, ils donnent 50 milliards d'euros par an aux plus riches et aux multinationales, plus des milliards d'aides aux entreprises sans aucune conditionnalité. Et ensuite, ils nous expliquent, après avoir bien creusé la dette, qu'il y a un problème de dette, que c'est horrible. Et donc, messieurs, dames, ouvrez vos poches pour qu'on puisse prendre l'argent pour rembourser l'argent qui a été donné aux plus riches. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et je vais le dire, nous sommes un pays, la septième puissance économique au monde. J'ai honte que dans
J'ai
honte qu'il y ait des enfants, un nombre d'enfants à la rue qui explose, qui dorment à la rue.
Vous voulez vous extraire de règles financières, finalement. Vous dites...
Mais nous désobéirons, nous l'avons dit maintes fois. Désobéirons, nous ne sommes pas d'accord avec le fait... Enfin, rendez-vous compte que l'hôpital public, l'école publique sont déjà en effondrement total. Où est-ce qu'on va prendre l'argent en plus ? Rendez-vous compte que là, ce qui a été annoncé comme austérité, c'est 56 milliards en moins de 2 ans qu'on veut prendre dans les poches des plus précaires, des retraités, des fonctionnaires. Nous ne sommes pas d'accord. Il y a des poches qui sont très très bien remplies. L'homme et la France, le plus riche au monde, sont tous les deux français. Et la France est championne du monde de versement de dividendes. Ça suffit.
Est-ce que le dérapage budgétaire pourrait être une raison, un motif pour une motion de censure, pour provoquer une motion de censure à l'automne lors de l'examen du budget ? Comme l'envisagent certains aux Républicains.
On verra ce que feront les Républicains. Nous avons dit que nous ferons une motion de rejet s'ils ne font pas un projet de loi de finances rectificatif. Rendez-vous compte, 16 milliards d'économies sur le budget 2024, puis 10 milliards d'annulation de crédit, puis encore 10 milliards avec zéro seconde de discussion à l'Assemblée, plus un budget qui a été passé par 49 fois.
Pour être concret, une motion de censure passerait si vous votiez une motion de censure des Républicains.
Mais nous le ferons.
Vous ferez.
Bien sûr.
Et donc,
et nous n'avons qu'une hâte, c'est que ce pouvoir parte.
Y compris s'il s'agit de s'associer aux Républicains.
Mais écoutez, une motion de censure, et je vais vous refaire un cours sur le droit à l'Assemblée nationale. Vous savez très bien que quand vous votez une motion de censure, vous n'êtes pas en train de voter pour faire un gouvernement avec les Républicains, ce que je ne ferai jamais. Mais vous êtes en train de vouloir faire tomber un gouvernement. Et puis, généralement, une motion de censure, souvent, quand elle est associée à un texte, permet aussi de faire tomber le texte. Et donc, pourquoi pas le budget. Et donc, c'est deux effets.
Et vous souhaiteriez une dissolution à l'issue de cette motion de censure, si elle était votée ?
Nous ne demandons pas de dissolution en tant que telle, puisqu'on ne demande pas au président de la République de nous dissoudre comme ça, mais nous disons, oui, nous y sommes prêts. Et je crois que le gros problème qu'il y a dans notre pays actuellement... Attendez, je termine sur cette question-là, qui est une question importante. Le gros problème dans notre pays, c'est que comme Emmanuel Macron a refusé à chaque instant d'avoir des débats pendant l'élection présidentielle, les débats n'ont pas été tranchés pendant l'élection présidentielle. Et depuis, vous avez crise sur crise qui ne cesse de s'accumuler parce que, justement, l'orientation politique n'a pas été tranchée. Donc, à un moment, quand vous êtes dans une situation de blocage avec 23-49-3 utilisés, la seule solution, ça reste toujours le peuple. Et nous sommes d'accord avec ça.
S'il y a une dissolution donc des élections législatives, vous reformez la NUPES ou c'est une idée abandonnée ?
Bah écoutez, vous avez qu'à demander aux diviseurs, parce que nous avons été toujours constants sur cette question-là.
Qui sont les diviseurs ?
Tous les autres, tous ceux qui sont partis. Enfin, je rappelle que...
Donc vous êtes restés dans la ligne et les autres sont divisés. Vous, vous êtes restés dans la ligne et les autres...
Nous continuons de porter le programme de la NUPES, donc oui, nous considérons que nous continuons à faire vivre le programme de gouvernement qui a été construit au moment de la NUPES, sur lequel les 151 députés de la NUPES, et pas juste les LFI, pas juste ceux de la France Insoumise, ont été élus, donc oui. Et par ailleurs, c'est la stratégie de l'Union Populaire que nous continuons, puisqu'il se trouve que sur notre liste, vous trouvez Damien Carême, eurodéputé écologiste, vous trouvez Arash Haïdi, qui est l'ancien coordinateur de Génération, vous trouvez la présidente des Jeunes Écologistes qui est avec nous, etc., etc. Et nous continuons de dire, avec tous ceux et celles qui veulent continuer à porter le programme de la NUPES, vous êtes bienvenus avec nous. Je disais, nous avons l'habitude de faire des campagnes longues, d'habitude. Bon, cette fois-ci, ça ne vous a pas échappé que nous faisions une campagne très courte. Pourquoi ? Parce que jusqu'au dernier moment, nous avions proposé, y compris même la tête de liste, à d'autres de la NUPES, pour pouvoir continuer autour de ce programme-là. Donc oui, c'est ce que j'appelle des diviseurs, et j'espère que le 9 juin, eh bien, c'est justement ceux qui continuent la stratégie de l'Union Populaire qui sortiront renforcés de cette élection.
Si vous faites un mauvais score aux européennes, quelles conséquences ça peut avoir à gauche, et quelles conséquences aussi ça peut avoir à la France insoumise ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura certaines aventures personnelles qui pourront s'exprimer, je pense à Clémentine Autain ou à François Ruffin.
Mais vous savez, Clémentine Autain et François Ruffin défendent le programme que nous défendons, c'est-à-dire celui de la NUPES, celui de l'avenir en commun que nous avons porté.
Alors justement,
à l'élection présidentielle. Il n'y aura pas d'explosion après les élections européennes ?
Bah écoutez, on verra, mais non, j'espère au contraire qu'il y aura justement un renforcement de notre camp.
François Ruffin a des craintes, il a dit dans la Croix cette semaine, il redoute après les européennes de voir à gauche deux camps irréconciliables avec d'un côté les insoumis, je le cite, qui jouant au plus radical que moi tu meurs, et de l'autre une gauche pépère qui pense que tout va bien. Est-ce que vous partagez ces craintes ?
Eh bien je pense que la NUPES, il faut se rappeler comment la NUPES a été créée. La NUPES a été créée dans la suite des élections présidentielles.
Je vais vous répondre sur les européennes.
Je vais vous répondre sur François Ruffin. Mais la NUPES a été créée après les élections présidentielles où, très clairement, les électrices et les électeurs avaient tranché sur un programme de rupture, puisque Jean-Luc Mélenchon faisait 22% et que les trois autres partenaires de la NUPES faisaient, eux, tous 5% ou moins de 5%, parfois 1,5%, parfois 2,5%. Donc, ça avait été tranché par les urnes. C'est ce qui a donné le programme de la NUPES, qui est un programme, justement, de rupture. Eh bien, je le dis, quelle que soit la situation, nous continuerons autour de ce programme de rupture. Parce que, y compris...
Sur les craintes de François Ruffin, pardonnez-moi.
Mais je ne crois pas que François Ruffin propose d'abandonner le programme de rupture.
Alors,
il dit que peut-être il y a une gauche avec PS autour.
Il se voit comme un pont à gauche, parce que si ça part des deux côtés opposés, je le cite encore, c'est mort.
Oui, et si vous allez de nouveau vers la social-démocratie de François Hollande, ça veut dire que c'est fini. Et je suis sûre que François Ruffin est d'accord avec moi sur ce point. Donc, nous voulons de la clarté. Et la clarté, continuer à porter le programme de la NUPES.
Vous imaginez que Jean-Luc Mélenchon ne puisse pas être candidat à l'élection présidentielle en 2027 ?
Mais on verra. Mais nous avons un problème de riches. Et peut-être que c'est cela qui vous embête, c'est que finalement, j'espère que ce n'est pas la figure, le personnage lui-même de Jean-Luc Mélenchon que vous n'aimez pas, mais ce sont les idées que nous portons. Eh bien, il se trouve que vous n'avez pas Jean-Luc Mélenchon, peut-être, je ne sais pas, non, ça sera peut-être lui, non, mais les idées vont continuer dans tous les cas, puisque
dans les
il y a
aujourd'hui
de nombreuses personnalités qui peuvent continuer.
François Ruffin pourrait-il être un meilleur candidat que Jean-Luc Mélenchon?
Vous créez des fausses polémiques. Je vous dis, François Ruffin, c'est les idées de Mélenchon aussi. Donc en fait, quand je vous dis problème de riches, c'est que oui, nous avons plusieurs candidatures possibles, mais la seule certitude que j'ai, c'est que le programme de gouvernement de la NUPES et le programme de l'Avenir en commun sera candidat aux élections de 2027.
Mais sur les idées, vous êtes d'accord sur l'incarnation? En revanche, on sent que ça débat.
Mais oui, mais vous savez, ça débat évidemment. Enfin, on est des insoumis. Qu'est-ce que vous croyez qu'on dit oui à tout et que vous savez, les insoumis sont vraiment insoumis. Et c'est très,
bien comme ça.
C'est aussi parce qu'il y a des gens qui tiennent bon dans le pays qui débattent que ça permet justement à ce pays de garder une voix indépendante au service de la paix, une voix qui dit que non, nous ne sommes pas condamnés à vivre toujours plus mal dans l'océan de malheur qu'a créé Emmanuel Macron, que veut continuer le Rassemblement National puisqu'ils votent ensemble contre l'augmentation des salaires, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour augmenter les loyers, etc. Donc nous sommes l'alternative de ce pays, on débat et c'est bien normal et c'est heureux.
Vous évoquiez d'un mot tout à l'heure les accidents du travail. Bernard Thibault, l'ex numéro 1 de la CGT, impliqué dans l'organisation des JO, a fait le bilan des chantiers pour les Jeux Olympiques et il y a eu selon lui 4 fois moins d'accidents du travail que sur des chantiers comparables. Est-ce que sur ce cas précis, vous saluez un progrès?
Alors, je veux d'abord saluer celles et ceux qui sont en ce moment même rassemblés pour Amara Diumassi, qui avait 51 ans, qui est mort dans un accident du travail. Il avait 12 enfants et il est mort du travail, justement, dans un chantier des Jeux Olympiques. Donc, avoir moins de morts, peut-être est-ce heureux, mais il y a toujours des morts et ces morts ont des noms, ont des prénoms, avaient des vies, avaient des rêves, avaient des projets. Et quand je vous dis que la France est championne d'Europe sur le nombre de morts au travail, avec, on en est à peu près, selon les années, mais à 2 accidents du travail par jour. Emmanuel Macron porte une lourde responsabilité sur cette question.
Le gouvernement doit faire des annonces demain sur le sujet. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Je disais, Emmanuel Macron porte une lourde responsabilité sur cette question. Ils ont supprimé les CHSCT, justement, sur la question de la santé et la sécurité au travail. Mais surtout, ils ont supprimé moins 20% des effectifs dans les effectifs de l'inspection du travail. Au point qu'aujourd'hui, il reste 1700 inspecteurs du travail pour 20 millions de salariés. Et je suis fière que sur la liste de Manon Aubry, il y ait Anthony Smith, qui soit en très bonne position et qui bientôt sera eurodéputé, qui est inspecteur du travail et qui se bat justement pour le droit à la santé et à la sécurité au travail.
Donc votre
nous demandons au moins de doubler l'inspection du travail pour faire en sorte que tout le monde ait le droit à ce service public et que, évidemment, on donne des amendes beaucoup plus conséquentes et beaucoup plus dissuasives aux employeurs qui mettent en danger la vie de leurs salariés.
Une toute dernière question. Les dernières semaines ont été marquées par des violences de la part de jeunes, de mineurs. Plusieurs villes, Béziers, Nice, ont ou vont instaurer des couvre-feux pour les moins de 13 ans. Est-ce que c'est une solution à vos yeux ?
Alors non, absolument pas. Et d'ailleurs, c'est en Guadeloupe aussi ont été installés ces couvre-feux. Je vais vous dire, j'ai le sentiment avec les annonces qui ont été faites par Monsieur Attal que vous avez une Macronie qui préfère se protéger des enfants plutôt que de protéger les enfants. Je suis très inquiète de ce qui a été annoncé sur la question de l'éducation, comme je suis très inquiète de la pente toute répressive que prend ce gouvernement.
Les internats éducatifs, ça ne protège pas les enfants. Les internats éducatifs, c'est pas.
Eh bien non, ce qui protège les enfants s'appelle la protection de l'enfance. Et je vous donne juste un exemple. Dans la Vienne, ils ont enlevé 250 000 euros à la prévention spécialisée aux éducateurs de rue et ils ont dépensé 180 000 euros pour la flamme olympique. Eh bien, merci. 250 000 euros, c'est 5 postes et 400 jeunes et leurs familles qui ne peuvent plus être accompagnés.
Merci
c'est un
beaucoup.
Scandale et là aussi, c'est le bilan d'Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Mathilde Panot pour ce grand jury. Bon dimanche à tous et on se retrouve la semaine prochaine avec un débat exceptionnel entre les 7 têtes de liste aux européennes. Ça sera entre midi et 14h, un grand jury exceptionnel. À la semaine prochaine.
Le grand jury RTL Le Figaro Paris Première M6. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Ça vous arrive à vous de prendre de grandes décisions en 10 secondes ?
De grandes décisions, monsieur Junior ?
Moi, la dernière fois, j'étais chez moi et j'ai dit « c'est trop petit ici, on part ».
Vous avez déménagé ?
Non, on est parti chez mon expert agréé Rénoval et hop, 20 mètres carrés de plus.
En ce moment, chez Rénoval, la TVA est offerte. Conditions sur rénoval.com. Mon extension, ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Jardiland célèbre son Jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Le Bon Dimanche Chaud.
Bonjour, je suis Bruno Guillon et tout à l'heure dans Le Bon Dimanche Chaud, je reçois l'auteur à succès Joël Dicker et comme tout bon Suisse, il a su rester neutre.
Les autres écrivains, ils sont mis en Suisse.